Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon ?
Voilà, messieurs.
Oui. Mais comment on boit ça ?
Du sec.
Allez.
Moi, c'est Mika.
Moi, c'est Adrien.
Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles. Alors on est bien là parce qu'il fait beau, c'est la première fois de l'année qu'on est à l'extérieur et c'est plutôt agréable. Bon, on est fin février, je suis pas certain que ce soit un temps très de saison parce que fin février normalement il devrait quand même encore faire un petit peu froid. Et là c'est le printemps et on est sur une terre qui est un petit peu sainte. Une terre sainte puisqu'on est sur la terre de la patronne de l'Alsace. On est chez Sainte-Odile. On va pas faire de prière, mais on va boire un coup à sa santé quand même. On n'est pas comme ça. Alors Adrien n'est pas là aujourd'hui. Il est dans la nouvelle aventure qui se prépare ou qui arrive. Mais j'ai pas mal d'acolytes et dont notre ancien copain. Ah, il chatouille.
Christophe Lindenlaub.
Monsieur Lindenlaub, bonjour.
Bonjour, ça va bien ?
Toi, tu deviens quasiment mon deuxième bras droit.
Hein. Oh, je sais rien, écoute, je sais que je suis toujours bienvenu et ça fait toujours plaisir de partager autour d'un événement, d'une bonne bouteille et voilà, c'est important.
Alors, on a aussi des invités que je voulais qu'ils soient là. Alors, il y a évidemment l'hôte du jour que je vous présente un peu plus tard, mais il y a un barbu en face de moi, il a un peu il ressemble un peu à Gandalf, sauf que à côté de Gandalf, lui il boit du vin. Salut Bertrand.
Salut Michael, comment ça va?
Alors Bertrand, on s'est vu il n'y a pas longtemps justement chez notre invité du jour et on a sympathisé. Je me suis dit tiens, c'est le moment aussi parce qu'il fait un des métiers périphériques du vin et je trouvais que c'était intéressant aussi de parler des gens qui sont en coulisses. Parce qu'il y a le vigneron, mais il y a plein de gens qui sont en coulisses, ceux qui sont dans la terre ou qui travaillent les vignes et ceux qui sont derrière. Tu es d'accord avec ça?
Moi, je suis toujours d'accord.
Il
faut pas oublier les multiples facettes. Il n'y a pas juste la production, il y a la commercialisation, il y a je ne vais pas dire les gens de l'ombre, ils sont peut-être même plus exposés que les vignerons parfois, parce que c'est vrai que c'est eux qui nous représentent aussi dans plusieurs lieux, autant les restaurants que les cavistes. Et voilà, quoi, je pense que c'est important aussi de parfois de les mettre en avant.
Alors aujourd'hui, nous sommes chez la famille Vonville, qui est quand même sur Haute-Rotte depuis, je crois, la fin du 19e ou début du 19e.
400 ans, on est depuis 400 ans à Haute-Rotte. Salut tout le monde, salut Michael.
Comment tu vas?
Bah écoute, comme un lundi, toujours. Bah écoute, si tous les lundis commençaient un peu comme ça, ou au moins dans cet esprit-là, je pense que ce serait un bon départ pour une semaine qui se poursuit, quoi.
Est-ce que tu connais le podcast?
Ah bien sûr, oui, j'y vais, de temps en temps, oui, je regarde sur Facebook, ouais.
T'as écouté quelques épisodes?
J'ai écouté quelques épisodes, toujours sympa, toujours différent, une approche différente de...
T'as écouté le sien?
Oui, j'ai écouté le sien. Ouais,
il a bien parlé?
C'était l'année dernière, ça, hein.
Et puis c'est où? Ouais, bah forcément...
Pendant les vendanges, c'était pendant les vendanges, je l'ai écouté dans la cave en train de... En attendant les raisins, et je l'ai écouté, ouais.
Alors pas plus que autant.
Ah Christophe, c'est un orateur, Christophe. Non mais Christophe, il a cette faculté-là. Il ouvre la bouche, les autres se taisent.
Un charisme.
Ouais, on peut appeler ça une forme de charisme. Non mais c'est vrai, pour le connaître depuis, on a fait Roufac ensemble dans les belles années de Roufac, hein, on va dire ça comme ça. Hein, je pense que les profs se souviennent encore de nous à l'heure actuelle, dans le bon sens, hein, bien sûr.
Bien sûr, yo, à eux.
Et j'ai même eu, j'ai même eu des profs qui sont restés clients chez moi depuis Roufac.
Bah si, pour les gens qui te connaissent pas, tu es qui? C'est quoi ton parcours?
Je suis né dans une famille de vignerons. J'ai fait mes études à Roufac, hein, comme Christophe, et avec différents stages. Hein, on a dû partir pendant le BTS, ils imposaient des stages à l'étranger. Bon, nous, Alsaciens, on n'allait pas très loin, on allait juste en face. Hein.
En Bourgogne?
Non, en Allemagne. Non, il fallait parler une langue étrangère, même si le français était une langue étrangère pour nous. Bon, bref, sans polémique. Après Roufac, je suis parti presque un an aux États-Unis pour faire toute une campagne de vinification. Voilà, j'ai fait l'armée et ensuite j'ai fait un an dans la vente chez Dopfeyrion à Riquewihr, au caveau. J'étais responsable du caveau et le temps de préparer mon dossier d'installation. Et puis en 2002, je me suis installé sur le domaine familial. Papa était toujours un peu soucieux de ce qu'il mettait dans les vignes, en prenant compte du fait qu'il travaillait dans ces mêmes vignes. Donc il avait déjà un respect pour lui-même, quoi. Ça commence par là. Maintenant, on a utilisé de la chimie à ce moment-là. Je ne saurais plus dire. Bon, après, on était un des premiers membres de l'association Tiflo, qui est maintenant dissoute. Hein. Et puis, la dissolution de Tiflo, on est passé en bio, mais sans certification. Là, je suis en dernière année de reconversion.
Tu vas aller plus loin, vers la biodynamie ou...
Biodynamie, oui, ça m'intéresse vraiment. Je pense qu'il y a une autre approche encore qui peut être vraiment sympa. Surtout en prenant compte du fait qu'on travaille sur un petit vignoble, hein, qu'on se le dise. Autrotte, c'est pas grand, il y a 35 hectares. Mais je peux d'ores et déjà affirmer que d'ici 6 mois, quand je serai certifié bio, quand le collègue d'Autrotte sera certifié bio, plus de la moitié du vignoble d'Autrotte sera en bio. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de vignobles en Alsace qui puissent revendiquer ça. Mais ça fait que 35 hectares, tout est relatif. Hein. Mais je pense que l'impact, effectivement, d'une technique est efficace quand elle est sur des plus grandes échelles, quoi, plutôt que des spots par-ci par-là qui sont... traité en bio ou en biodynamie.
Alors justement, parlons un peu de terroir d'Autrotte. Le rouge d'Autrotte, en fait, c'est les moines qui, bénédictins, me semble-t-il, le 12e siècle, qui l'ont amené. Alors en fait, j'ai pris conscience, moi, de l'appui spirituel de l'Alsace. Par exemple, à Reichswiller, c'était les cisterciens qui ont implanté la vigne. Cet impact-là est très important à Autrotte.
L'impact des ecclésiastiques a toujours été, que ce soit pour le vin, que ce soit pour la bière, c'est eux qui ont amené le savoir et c'est surtout eux qui ont su le retranscrire. Donc surtout, je pense que la connaissance des cépages, elle a été en premier lieu connue par eux et par eux seuls. Parce qu'ils pouvaient faire des sélections, parce qu'ils savaient ce qui marchait à tel endroit et pas à d'autres endroits, et ainsi de suite. Donc je pense que ce travail-là, on le doit aux moines. Hein. Pour ce qui concerne Autrotte, le pinot noir, il existe attesté depuis 1109 sur Autrotte, donc ça remonte à très loin. Mais il n'y a plus de témoins, hein, on va dire ça comme ça. Ce que je dis souvent, c'est que c'est un cépage qui est toujours dans toute l'Alsace, mais qui, sur Autrotte, a toujours donné quelque chose de différent. Ce qu'il faut comprendre de la notion de rouge d'Autrotte, c'est que le nom lui-même retranscrit une histoire. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas la notion de cépage à l'époque, je ne sais pas quelle époque, mais il y a plus d'une centaine d'années, ils n'avaient pas forcément la notion de cépage. Je parle du consommateur final. Ils ne demandaient pas un pinot noir, ils ne demandaient pas un gamay, ils demandaient un vin rouge. Et chez nous, dans le coin, ils demandaient un vin rouge d'Autrotte. Et un vin rouge d'Autrotte est devenu le rouge d'Autrotte. C'est vraiment un usage constant historique qui a fait que cette appellation-là s'appelle comme ça aujourd'hui.
C'est un peu comme le Klevener à Elegance.
Tout à fait, tout à fait. Après, pour parler du terroir, qu'est-ce qui peut faire la différence? C'est un terroir qui est argilo-graiseux avec des marnes bleues, ce qu'on appelle les marnes bleues en profondeur. à peu près 80 cm, 1 mètre, qui fait cette spécificité-là. Pour le... On a vraiment la capacité sur trotte, enfin la vigne a la capacité d'utiliser l'élément fer plus qu'ailleurs, parce que l'élément calcaire est presque inexistant. Et du coup, tout ce qui est anthocyane, polyphénol, la vigne arrive à bien les synthétiser. Et on a effectivement des intensités colorantes un peu plus prononcées, une charge tannique plus prononcée. Si on ne fait pas gaffe, d'ailleurs, on peut arriver à des excès. Et voilà, quoi, ça c'est vraiment la différence technique que je peux donner par rapport au terroir.
Oui, en même temps, si je ne me trompe pas, c'est 100% je crois du Bordeaux Trotte qui est que du Pinot Noir. Je ne sais même pas si...
Tout ce que tu vois là autour de toi, c'est que du cépage Pinot Noir. Ce n'est pas flagrant maintenant, mais si tu viens juste avant Vendange, tu verras que du Pinot Noir accroché, il n'y a rien d'autre. C'est unique pour l'Alsace d'avoir un cépage sur un vignoble présent à 100% et de surcroît un rouge quoi, dans une région qui produit 90% de blanc quoi. Alors le dossier rouge de Trotte était un très vieux dossier, on aurait pu passer à l'époque avec déjà le dossier Klevener de la Liegenstein qui doit faire 25 ans à mon avis minimum que Liegenstein est devenu une appellation, et on était à ce moment-là un peu présent, enfin on était présent avec un dossier aussi mais qui n'est pas passé parce qu'il n'y avait pas de d'entente dans le village, on va dire ça comme ça, hein, sans s'étaler sur le sujet. Et c'est vrai qu'en 2009, quand on a repris le flambeau pour la défense, ou au moins la création d'une appellation, on a mis quand même deux ans à le faire passer en décret ministériel pour que ce soit officialisé. On l'a voulu tous, parce qu'à ce moment-là, il y avait... entre guillemets, des usurpateurs qui vendaient du rouge de Trotte qui ne venait pas de Trotte. Lors de la création de l'appellation rouge de Trotte, on ne va pas se leurrer, il y a eu des, entre guillemets, des dommages collatéraux, puisqu'il y a des vignes qui ont été écartées parce qu'elles ne faisaient pas partie du noyau, ce qu'on appelle le noyau. Il y a par exemple des vignobles comme là-bas en haut, au-dessus de la colline, hein, qui sont derrière les maisons. Donc elles sont isolées. Ben ça c'est du Pinot Noir, planté en Pinot Noir, c'est à Haute-Trotte, mais c'est pas appellation rouge d'Haute-Trotte, parce qu'on est trop excentré par rapport au noyau dans lequel on se trouve nous actuellement. Mais sinon, non, on est sur une strate, hein, strate communale. Il n'y a pas de lieu dit, il n'y a pas de grand cru, puisque la strate communale fait déjà, on va dire, sur le cahier de charge, sur le papier, est similaire à un grand cru. Et de toute façon, on a un vignoble, tu vois bien autour de toi, c'est homogène. La pente est homogène, au niveau du terroir, c'est très homogène. Donc on ne peut pas vraiment faire de différenciation. Les différenciations que moi je fais pour, par exemple, faire mes différentes cuvées, se jouent surtout sur l'âge des vignes, quoi. Donc les plus jeunes vignes donnent les vins les plus fruités, les plus légers, plus l'âge grandissant, plus on est sur des cuvées marquées avec plus de densité, plus de corps. Quoi.
Et est-ce qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas, parce qu'il n'y a que des blancs en grand cru, est-ce que le Pinot Noir ne pourrait pas être à un moment donné un grand cru également ?
Mais pour moi, la question ne se pose même pas, bien évidemment. Pour moi, le Pinot Noir, il a sa place, tout à fait. Dans le grand cru, en fait, il n'y a que des blancs, parce qu'on n'a mis que des blancs dedans. On va parler d'un Sylvaner qui est un blanc également et qui a tout à fait sa place dans les grands crus, tout comme le Pinot Noir, et voilà quoi. Je veux dire, le grand cru est une notion de terroir et pas de cépage. Alors oui, effectivement, à un moment donné, il faut fixer une limite, mais on voit très bien que certains terroirs sont adaptés à certains cépages et qu'un Sylvaner, je parle maintenant de Zotzenberg en l'occurrence, fait des vins magnifiques, voilà. Donc pourquoi pas un grand cru Zotzenberg avec du Sylvaner et tout va bien. Un rouge en parallèle sur Haute-Trotte ou n'importe lequel des autres grands crus. Surtout qu'aujourd'hui, il y a, je prends maintenant Fürstentum ou n'importe, il y a de la demande, il y a des vins qui sont faits tels quels. Et au lieu d'être nommés par leur nom de terroir ou de grand cru, sont nommés juste avec un F ou juste avec une lettre parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est pas revendiqué. On n'a pas le droit.
Alors oui, on ne va pas mettre Haute-Trotte comme seul terroir à Pinot Noir, on est d'accord. Hein, le Pinot Noir a sa place un peu partout en Alsace. Il y a effectivement des grands crus, voilà, sans les citer, les Faubourg, le Kirchberg, où il y a des vignerons qui se défendent en faisant des très très bons Pinot Noir. Le problème ne s'arrête pas là, parce qu'après, on ne met pas en doute ce fait-là. C'est juste que effectivement la lourdeur administrative fait que c'est compliqué. Nous on l'a vu avec le rouge de Trotte, nous on était un dossier considéré comme simple, Pourquoi? Un cépage, un vignoble, une revendication unanime de la part de tous les vignerons, hein, que ce soit de Trottes ou d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des propriétaires de Trottes à Haute-Trottes, hein, il y a des gens de peu partout. Hein. Et du coup, bah, si la demande ne vient que d'un vigneron, c'est perdu d'avance. C'est perdu, c'est même pas la peine que... Donc le problème, il s'arrête là. Si tu es sur un grand cru, avec les quatre cépages à l'heure actuelle revendiqués, autorisés, tu vas en rajouter un autre, bah, tu auras peut-être sur la poignée, je sais pas, comme des grands crus comme Forbourg, justement, où c'est c'est des grandes surfaces déjà, où il y a plusieurs vignerons, bah, il y a des vignerons là-dedans qui n'ont pas de pinot noir. Parce qu'il n'a jamais été revendiqué comme tel. Donc, à mon avis, ça va venir un jour, c'est une question de temps. Mais la lourdeur administrative fait que pour l'instant, ça ne va pas plus loin, à mon avis. Sans mettre en doute le fait qu'on peut faire des très bons pinots noirs sur ces grands crus-là.
C'était quoi ta vision avant ta reconversion sur le vin d'Alsace?
Ma vision, elle est très simple. Moi, je suis un amoureux des vins d'Alsace.
Tu l'as toujours été?
J'ai toujours aimé ça. En fait, les premières dégustations que j'ai faites, c'était au domaine Roland Schmitt à Bergbitten. Le parrain de ma femme, Louis Danichère, dessinait les étiquettes du domaine et connaissait donc, c'est un ami de Roland Schmitt. Et on a commencé à faire des dégustations. Bon, je connais ma femme depuis plus de 35 ans, donc voilà, on devait avoir 18-19 ans. Puis après, j'ai été explorer aussi les vignobles du Haut-Rhin. Mais j'ai quand même une petite préférence pour les vins du Bas-Rhin. En fait, là, aujourd'hui, moi, j'ai la chance de travailler avec Stéphane, mais rien que la qualité de ces pinots noirs, et puis on est en train de déguster un pinot noir, un rouge de Trottes de 2003 ou 2004. Je n'ai pas mes lunettes, donc je ne vois pas la date, mais c'est 2004, qui est assez exceptionnel. Voilà, donc ça prouve que, voilà, on a la chance d'avoir... des terroirs exceptionnels, des cépages qui savent être travaillés par des vignerons exceptionnels aussi. Stéphane, il est juste grandiose par son approche et humainement. En fait, moi aujourd'hui, je fais ce métier. J'ai travaillé longtemps dans l'industrie agroalimentaire où justement l'humain était mis un peu de côté. Et aujourd'hui, je fais ce métier d'agent. En fait, de collaborateur plus que agent, parce que j'essaye vraiment d'être proche des vignerons avec qui je travaille et de monter, pas un business, mais de monter une collaboration qui est porteur pour tous les deux. Je travaille un tout petit peu, on a fait un ou deux coups avec Christophe. J'espère que dans le futur, il y en aura un peu plus. Pour en revenir au vignoble du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, enfin l'Alsace, on ne va pas être sectaire non plus, mais il y a une vraie qualité de vin. Et je dis souvent aux gens... Allez déguster chez les vignerons. Alors peut-être pas qu'en Alsace, mais en France. Quand vous êtes dans une région de France où il y a des bons vignerons, allez les rencontrer. C'est des gens passionnés. Tu ne peux pas faire ce métier si tu n'es pas passionné. Moi, je suis de toute façon quelqu'un de passionné et donc je suis aujourd'hui dans mon élément parce que je ne rencontre que des gens passionnés. Et c'est juste... aujourd'hui, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir. Je gagne beaucoup moins d'argent qu'avant. Mais je prends beaucoup plus de plaisir. Je suis juste le lien entre le vigneron et le caviste, le restaurateur, pour faire... Tout le monde a une super mauvaise image, je saute un peu du coq à l'âne, mais tout le monde, quand on parle du rouge de Trottes, moi j'arrive parfois chez des cavistes, ah non mais le rouge de Trottes c'est pas la peine. Bah, regarde la réflexion que tu nous avais faite la semaine dernière, ou il y a 3 semaines, hein, quand tu es venu faire la dégustation. Et en fait, en faisant la dégustation des vins, on prouve par A plus B que bah non, c'est des vins qui sont top et qui ont leur place sur toutes les tables d'Alsace.
Bon, allez, place à la dégustation. Et...
Birkin time, les bateaux, Birkin time.
Alors, moi j'aime bien les verres, c'est...
C'est les verres à pinot noir, modèle pinot noir, de chez Riedel.
Alors Riedel qui a fait un épisode avec, je crois que c'est le bon grand... Non, c'est le sourire du vin. Que vous pouvez retrouver également sur toutes les plateformes de podcast. Assez intéressant aussi de voir comment ils créent leur verre.
Par rapport à chaque cépage, ouais, j'ai une fois eu un commercial de chez Riedel chez moi au caveau. Et on a fait une dégustation donc avec 5 ou 6 verres différents. Et donc le même vin dans 6 verres différents. Et Et c'était impressionnant. On savait à l'avance qu'au niveau olfactif, on allait voir des différences. Mais là où c'était bluffant, c'est qu'il y a des différences gustatives sur le même vin selon le verre, quoi. Ça, c'est impressionnant.
Est-ce que le choix du verre est important pour le vin ?
Ben, le choix du verre est important pour le vin, pour chaque type de vin. Donc là, le verre Pinot Noir, on est vraiment sur un verre très évasé pour justement oxyder les tanins, pour faire ouvrir le vin. On est moins sur un verre plus élancé, comme pour un Riesling ou un vin blanc sec. Et clairement, le verre INAO, si je dois résumer la dégustation de ce jour-là, le verre INAO qu'on utilise tous en caveau, ben, il était clairement désavantagé le vin par rapport au verre qu'on a à l'heure actuelle. Et ça c'est bluffant.
Allez, place au premier vin. Bon, on va faire le tour des copains pour voir un petit peu. Close, je picote chaud là. Je crois que monsieur Lillenlaub a déjà fini son verre. Du coup, amoureux.
Le vin est fait pour être bu. Alors, du coup, effectivement, le temps que certains discutent là, pendant des heures, là, nous goûtons, on déguste.
C'est bien, t'es...
Donc, effectivement, alors, c'est un très très joli vin de 2004, une très belle tenue. Déjà des notes un peu d'évolution qui sont super intéressantes, un peu de patine, de cire, de cuir qui lui va bien. Et une belle trame avec une belle acidité qui lui donne une belle droiture et une élégance à ce vin. Et ouais, vraiment beaucoup de plaisir, des fruits un peu compotés sur l'évolution, une belle maturité, très beau vin. Ouais.
Qu'en penses-tu?
Que rajouter de plus, Christophe a dépeint ce vin. Moi, ce que j'apprécie, c'est la belle fraîcheur que tu as encore en bouche. On est quand même sur un vin qui a 17-18 ans.
C'est un 4, hein, donc oui, mais les 4, alors les 4, c'est comme des vins avec une belle tenue, une belle acidité à la base, et effectivement qui tient bien le vin à travers le temps. Alors la remarque est judicieuse par rapport aux 3, où tout le monde pensait que les vins allaient se casser la gueule, ou allaient être plan-plan, et alors je n'ai pas goûté, hein, j'ai aucune idée. Hein. Par contre, par expérience personnelle, j'ai des 3 qui, effectivement, ont très très bien passé le temps, parce qu'il y a une très belle structure à côté, donc il n'y a pas que l'acidité qui tient le vin, et c'est l'intégrité du vin qui donne la tenue. Et je pense même qu'avec le temps, les 2003 se sont... affiné ou je vais pas dire gagné en acidité, mais on retrouve quand même une belle fraîcheur sur les 3 étonnamment par rapport à millésime aussi solaire, quoi.
Bah là on a la fraîcheur, on a du fruit, on a cette acidité qui vient un peu en fin de bouche, qui relève, je trouve qu'il y a une sacrée énergie pour un vin qui a 17 ans, quoi. C'est assez impressionnant. Tu peux nous en parler un petit peu?
Bah 2004, voilà, moi j'étais installé depuis 2 ans. L'année suivant mon installation, bah c'était 2003. Donc où nous tous vignerons alsaciens, je pense, on n'a pas vu arriver le truc.
Fameuse canicule.
Ouais, canicule, et puis surtout le résultat sur les vins, des vendanges, on ne peut plus chaudes, très rapides, parce qu'on n'avait pas de rendement, parce que il n'y avait pas de pourriture, ça coupait. Moi je me rappelle toujours quand les vendangeurs rentraient le soir, ils disaient vous avez taillé combien aujourd'hui? Ah ben on a taillé celle-là, on a taillé celle-là, on a taillé celle-là. Et je voyais le niveau dans le fût, je dis mais on n'a rien rentré par rapport à la surface, quoi. C'était assez impressionnant. Et tout le monde disait effectivement en Alsace à l'époque, oui, c'est pas un millésime qui va se garder, il faut boire ça tout de suite. Alors c'était sûrement un argument de vente. Ce qui était vrai, c'est qu'il était bien à boire tout de suite, ça c'était vrai. On va goûter le 2003 juste après. Nous, on a juste eu peur, après 2003, que bah, par rapport à 2004 qui suivait, effectivement, une année plus problématique. On va parler toujours, je garderai toujours ça en tête, sur le cycle végétatif de 2003, on était sur 80 jours, hein, entre la floraison et la date de vendange. Donc un cycle qui normalement devrait être théoriquement à 100 jours, on était à 80, et en 2004, on était à 120 jours. Donc, tu peux dire qu'il y avait quasiment 40 jours d'amplitude entre 2 années consécutives. Okay. Et 2004 était, par rapport à 2003 qui était simple, où tout roulait, 2004 était un peu plus problématique. Mais en revenant maintenant, je préfère 2004. Parce qu'il y a cet équilibre, parce qu'il y a cette fraîcheur, parce qu'il y a... Alors je sais que dans l'avenir, les millésimes tendront plus vers des 2003 que vers des 2004. Hein, là, on ne va pas se leurrer. Je trouve, j'ai exprès ramené les deux aujourd'hui pour vraiment montrer deux années bien différentes en termes de climat, ce que ça peut donner. Et toutes les deux sont intéressantes. Enfin, on verra le 2003.
C'est parfait. Bah, allez. Allez, place au deuxième vin. Non, moi j'aime beaucoup hein, le côté l'acidité là. Hop là, Skilt.
Skilt.
Voilà les mousquetaires. Rapiche tendu, Tartagno.
Et t'entends le bruit là, ça fait les cloches. Ah, du jugo du Milich. En pur aromatique, mais bien poussé, vraiment. Ouais.
Franchement. Franchement, c'est. Je réitère l'idée du grand cru. Non, mais je sais pas, mais. J'ai quand même l'impression qu'on n'a jamais su vendre le pinot noir. Enfin, maintenant, ces dernières années, on y arrive. Un peu plus. Ou peut-être plus perfierté. Enfin, j'en sais rien. Mais.
C'est alsaco-alsacien. Hein. Le problème, il est là. Hein, je dirais.
Parce que je me rends compte que même moi, je me suis complètement planté en fait.
Ouais, mais tu sais, les préjugés, ils ont le cuir dur. Hein, et pas que pour les rouges de trotte, pour les vins d'Alsace d'une manière générale. Hein, on va pas. Mais c'est compliqué à dire dans le sens où on a toujours travaillé sur des pinots noirs plus denses. Alors il y a toutes les catégories, hein, ça c'est maintenant, on est maintenant sur les cuvées où on est sur quelque chose de plus dense, donc un peu plus intimiste. C'est pas ce qu'on produit le plus, donc c'est pas ce qui représente la majorité des rouges de trotte, on va dire. Mais j'ai toujours cœur à dire, même quand j'ai commencé à produire ce type de vin là, les gens me faisaient des critiques, ils me disaient mais si moi je veux acheter des vins comme ça, je vais en Bourgogne. Mais non, si on arrive à les faire en Alsace, pourquoi on s'en priverait?
Mais moi j'ai une question. Est-ce que si. Enfin, c'est plutôt la fiction, mais on va faire des fictions. Tu mets ça, tu gardes le même vin, mais tu changes la bouteille.
Tu
le vends?
C'est pas de la fiction. Tu veux dire.
On enlève la bouteille Alsace et on met une bouteille.
Ouais, non, mais oui, bah, y a une bouteille qu'on utilise, qu'on a le droit d'utiliser sur les rouges en Alsace, c'est la bourgeoise, je crois. Hein. Où tu es sur un mix de la bouteille rhénane et de la bouteille bourguignonne. Mais bon, voilà, c'est pas là le problème. Moi, j'ai des retours de clients qui s'amusent effectivement à mettre des bouteilles ou des carafes à l'aveugle dans les dégustations de Bourgogne. Ouais, ça j'en garde rien. Ça sert à rien de voir se comparer à des Bourgognes. On fait de l'Alsace. Je veux dire, c'est.
Même pas pour comparer, je verrais bien une petite soirée avec plein de pinot noir, mais vraiment partir sur le pinot noir, tu en mets plusieurs et tu mets 2-3 Alsace pour montrer aussi que en Alsace, on sait se faire de bonnes choses. Nous, on avait fait ça.
À l'aveugle, tu veux dire? À l'aveugle.
Ah oui. Mais tu peux partir sur l'Argentine, je sais pas, sur. On avait fait ça pour le Riesling, on avait 6 vins, on avait 6 Riesling différents à travers le monde. Après, à l'époque, j'avais pas forcément bonne opinion du Riesling alsacien, ce qui aujourd'hui a changé. Mais maintenant, c'est vrai que le pinot noir, je pense qu'il mérite. Alors, peut-être que. Alors, ça va être une question un petit peu provoque. Est-ce que le réchauffement climatique, finalement, n'a pas donné aussi des lettres de noblesse au.
2004. J'aurais pu te sortir des 97. J'aurais pu te sortir. Non, 97 est un peu vieilli maintenant. Mais des 93.
J'ai dit que c'était un peu provoque.
Ouais, c'est un peu provoque. Mais bon, c'est vrai que il faut toujours conjuguer plusieurs choses, on va dire. Il y a un contexte économique, il y a un contexte politique. Je parle de la viticulture, hein, où il y a eu des politiques de baisse de rendement sur les 30 dernières années. C'est sûr que le pinot noir, comme on dirait classiquement, pinot noir tard flambé, il est devenu quasiment pas inexistant. Si, il y en a toujours. Mais je veux dire, on tend plus vers ça. Et hein?
Oui, peut-être je vais juste couper là, je suis désolé. Mais cette histoire de pinot noir tarte flambée, alors c'est un peu péjoratif peut-être. Mais moi je me rends compte aussi qu'aujourd'hui, de plus en plus, j'aime bien boire aussi des vins qu'on peut boire tout simplement, avec le glou, avec une belle dynamique, une belle trame acide, avec quelque chose qui se boit bien. Il y a quelqu'un qui vient. Voilà, c'est peut-être la voiture, non? À cause du bruit, je sais pas si ça perturbe. Et du coup, effectivement, aujourd'hui aussi, y a des bouteilles qu'on a envie de boire sans forcément se poser trop de questions, sans forcément l'échouiller une demi-heure après le verre, entre guillemets. C'est pas forcément que des modèles d'exposition non plus, faut pas l'oublier. Le vin est fait aussi pour être bu.
Comme la bière.
Et comme la bière, mais c'est bien aussi. On a que des bières à 9 là, ou 8, 9, 10, 12. Enfin, ça devient de plus en plus hard à boire, on va dire. Et parfois, ben, on a envie aussi, ou besoin, de quelque chose de plus léger, de plus goulayant, justement, pour. Je vais pas dire juste pour la soif, quoi, mais de plus accessible. Et alors, ça veut pas dire que c'est un petit vin, je veux dire. Pour exemple, alors aujourd'hui, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des très très grands vignerons qui font des vins très légers, très digestes. Alors, nous, on est au nord, on a toujours peut-être besoin de prouver qu'on a un peu de carrure ou de structure, alors que dans le sud, ils essayent tous de tel. Donc, c'est cette finesse ou cette délicatesse ou cette élégance qui est importante aussi. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, sur les collerettes, là, parce qu'il y avait des collerettes, il y avait marqué 20 fins d'Alsace. Je dis, ah ben, ils sont pas gros, ceux-là. Enfin bon, quand t'es gamin, tu sais, tu vois ça comme ça. Et effectivement, cette finesse, non mais c'est vrai, et cette finesse, elle est très importante, ce côté délicat, fin, élégant dans les vins. Et c'est ce qui porte, et on a un bon exemple justement dans le 2004, là, qui a ce côté très élégant, dentelle. Et Stéphane disait, 3 étoiles au...
3 étoiles à chatte.
Ah oui. Voilà quoi. Alors c'est pas forcément c'est un concours, bref, c'est très bien, mais effectivement, pour retenir que ce côté ciselé ou vin léger peut être très intéressant aussi, et pas forcément péjoratif de Pinot Noir tarte flambée, quoi, je veux dire, voilà.
Mais c'est un peu ça aussi qui fait, alors moi c'est vrai que je te vois de plus en plus sur les réseaux, c'est un peu toi, j'ai l'impression que t'as vraiment réussi à parler à tout le monde, à chaque consommateur de vin, aux plus jeunes peut-être avec les pétnates, aux plus anciens qui veulent quelque chose d'un peu plus gastronomique. J'ai vraiment l'impression que toi, tu as réussi à t'adresser à tout le monde sans laisser personne de côté, en fait.
Ben, le truc, c'est que y a des moments aussi. C'est pas fort. Y a tout le monde, effectivement. Il y a des gens, des courants de pensée, des envies différentes. Mais aussi des moments, je veux dire, moi aussi, parfois j'ai envie de vin plus structuré. Et voilà, je veux dire, et inversement, il y a des moments où j'ai envie juste de dégoupiller, de boire un coup, quoi. Je veux dire, là, en l'occurrence, le 2003, il est assez magique, je veux dire, mais c'est vrai que c'est pas forcément un vin que j'ouvrirais juste pour boire un coup. Je veux dire, là, ça amène à manger, c'est un vin plutôt gastronomique, avec quelque chose déjà de d'assez posé, et voilà. Là, effectivement, pour l'apéro ou une tarte flambée...
On a une petite bretzel.
Voilà, une petite bretzel. C'est-à-dire, je ne pense pas que c'est forcément le meilleur accord qu'on puisse trouver. Et donc, il y a des moments aussi où c'est important, je veux dire, de boire tel ou tel vin. Il y a des moments où on est fatigué, où... je prends l'exemple, on parlait de restauration, un cuisinier aussi, quand il est fatigué, il a tendance à saler un peu plus. Ou voilà, je veux dire, intrinsèquement, la personne n'a pas les mêmes besoins ou envies suivant le moment de la journée. Ou de son état d'esprit. Et les vins légers, oui, mais je reviens. Moi, j'aime bien ces vins glouglou, quoi. De plus en plus, quoi.
Ouais, moi aussi, je trouve. Ouais.
Et inversement, de temps en temps.
De temps en temps.
Il faut de nouveau de quelque chose de un peu plus structuré, parce que on a un plat qui.
Il faut de tout.
Moi, je trouve.
J'ai rien. Quand je disais avant, Pinot Noir tarte flambée, ça n'a rien de péjoratif. Hein. C'est juste que je pense que c'est l'image que le consommateur. C'est fait des rouges d'Alsace.
Tu vois, moi, l'image que j'avais du Sylvaner, c'était les Sylvaner avec la charcuterie industrielle en 7/7 le dimanche soir, tu vois. Oui. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout cette vision-là. C'est que c'est devenu gastronomique, c'est devenu bon. Tu as même des vignerons qui font des macérations avec, qui sont très bien réussis. Donc, ouais, c'est top.
C'est une question de... Allez, j'ai pas envie de parler stratégie, c'est une question d'objectif, j'ai envie de te dire moi j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose à prouver, mais je rejoins sur ce que dit Christophe sur cette comment dire, de donner la facilité aux gens, en fait, de boire quelque chose de facile, de se dire bah tiens, c'est facile, c'est bon, c'est gourmand, d'avoir tout à la fois plaisir.
Tout simplement de plaisir,
mais en allant maintenant dans le domaine technique, un vin comme on vient de goûter là, 2003, bon, qui a passé en barrique 15 mois, est-ce que j'aurais peut-être pas dû le laisser brut tel quel sans le passer en barrique, tu vois, pour enlever cette complexité qu'on a ajoutée avec le boisé et pour rester sur quelque chose d'un peu plus nature. Là, c'est la question à l'heure actuelle qu'on peut se poser, indépendamment de la qualité du vin. C'est-à-dire qu'on travaillerait quand même sur des rendements faibles, mais on arriverait sur des rouges un peu plus... oui, comme on dit, facile, indépendant, donc avec la qualité qui suit derrière. Quoi.
Mais je trouve c'est ça qui est intéressant, c'est que de plus, nous on sait, le vigneron alsacien parle de plus en plus à tout le monde. Bah, alors c'est peut-être aussi un cliché que je monte et qu'il faudrait peut-être que j'arrête de dire aussi que le Petnat c'est souvent pour attirer un public plus jeune, mais je vois que c'est ce qu'ils aiment bien boire et que c'est cool et que le vin ça peut être cool aussi, que ça n'a pas toujours besoin d'être élitiste.
Il faut du vin pour tout le monde. En fait, il faut répondre à l'attente de, en tant que vigneron, il faut pouvoir, au-delà de parler de commerce, comme disait avant Stéphane, il faut vraiment pouvoir répondre à l'attente de nombreux clients. Et aujourd'hui, par rapport à il y a 30 ans ou 35 ans quand j'ai commencé à boire du vin, la demande elle est complètement différente. Moi j'ai fait une cave de Bordeaux aujourd'hui que je ne bois plus. J'ai des quilles, on a pu savoir comment faire en cave. Et aujourd'hui on n'est plus du tout dans cette démarche-là. Les gens, et tant mieux, parce que les gens à la rigueur ont plus tendance aussi à aller sur les commerces de proximité comme les cavistes pour, ou chez les vignerons pour découvrir les quilles du moment. Et c'est peut-être ce qui est intéressant aussi. Donc et puis il y a toujours la notion de partage. Tu n'ouvres pas n'importe quelle bouteille avec n'importe qui. Là on est entre potes, voilà Michael, ça fait deux fois qu'on se voit mais ça accroche. Je parle pas de Stéphane et de Christophe, mais on est en train de partager des super quilles dans un endroit exceptionnel qu'est le vignoble d'Autrotte.
Comme disait le grand philosophe Christophe Linenau, le vin est un lubrifiant social. Et nous le démontrons à chaque fois. Et nous le démontrons encore à chaque fois qu'on fait ces épisodes-là. Et c'est qu'aujourd'hui, si demain je vais sortir une grande table d'Astérix à inviter tous les vignerons, je sais que les vignerons seront là parce qu'on a envie de se rassembler. Et c'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut qu'on montre. Et c'est là où Théo Schlegel a raison. Montrons la fierté de ce qu'on est, de ce qu'on vend, de ce qu'on propose, de ce que vous proposez. Parce que finalement, nous, on est un peu les passeurs entre vous et les consommateurs. Bah justement, revenons à ce Pinot Noir, à ce rouge d'Autrotte 2003. T'en penses quoi?
Bah, c'est pas mal, hein. Pour un... alors le 2003, moi je suis déjà au 2011. Excusez-moi.
Bah, tu avances. Toi.
J'ai pris un peu d'avance avec Stéphane. Alors le 2003, c'est juste bluffant, quoi. L'aromatique, elle est, on est vraiment sur le fruit noir compoté. Il y a quand même si c'est 2003, je trouve qu'il y a quand même une petite acidité qui est encore présente et qui donne de la tenue au vin. C'est un grand vin, c'est juste assez exceptionnel comme vin. 2003, voilà, à boire.
Ouais, il y a
à boire et à garder. À boire et à garder. Il y a encore du potentiel.
L'idée de la marronne, presque ce côté très surmûri, très confit, très riche. Presque, ouais, effectivement. Alors, on parlait avant de voyager. Et effectivement, le côté amarone me revient presque.
Ouais, et puis là,
chocolaté.
Ouais, il y a un côté chocolat.
Les cerises noires presque à l'eau de vie. Ou
griotte, là.
Griotte, ouais, et avec des chocolats.
Il a des tanins qui sont
ça,
agréables.
C'est un gâteau au chocolat.
Ouais, ça, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, les bretzels viennent de qui?
Ah, les bretzels viennent du boulanger en face, de le fournil d'Autrotte de chez Guillaume, qui est, je pense à l'heure actuelle, une des seules boulangeries bio en Alsace. Et les bretzels sont bio, par exemple.
Elles sont faites maison?
Ah oui, ça s'est fait
maison. Ça sent.
Oui, ça s'est fait maison, oui. C'est pas du surgelé, non, ça c'est clair.
Ça se sent.
Au niveau des vins, donc on a goûté, juste pour expliquer, deux cuvées Stéphane, la 2004, la 2003. Mm-hmm. Donc cuvée Stéphane, c'est ce qui vient de nos plus vieilles vignes. À l'époque, je ne faisais pas encore de macération entière ou semi-entière. Et il y a de l'élevage en barrique. Il n'y a pas de barrique neuve là. Hein. Je récupérais des barriques, je rachetais des barriques de chez Muret à Vestalten.
C'est ce que tu disais. Ouais.
Et donc j'ai commencé comme ça, la barrique avec lui. Hein. Et là, maintenant, on goûte un 2011 de Charles Lacarle. Donc, c'est la première année où j'ai fait cette cuvée-là. C'est une cuvée où, quand la remorque de vendange et de raisin est rentrée, je suis monté sur la remorque et j'étais juste épaté par la beauté des raisins. Et j'ai dit à mon père de regarder. On s'est regardé, je me rappellerai toujours, on s'est regardé dans les yeux et je lui ai dit, j'ai pas envie de les grapper. Ah, je pense qu'il y a beaucoup de maisons en Alsace à l'époque où le fils aurait dit ça et le père aurait fait des bons comme un kangourou. Et mon père, il a tout de suite dit, bah chiche, on le fait. Et on a donc fait la première cuvée macération entière en 2011. Il y a eu 3 semaines de macération, donc ça c'était la première. Et voilà quoi, donc ça c'est une autre approche de la macération hein, que Christophe connaît bien aussi, surtout sur les blancs. Et non, mais c'est très intéressant hein, sur des années où c'est bien mûr, les rafles sont bien mûres, il faut y aller, hein, il faut pas hésiter. Hein, c'est quelque chose que après, il faut lui laisser un peu le temps, c'est sûr. C'est pas des vins qu'on peut boire tout de suite dans l'instant parce qu'il y a. Il y a un peu, surtout sur les rouges, il y a plus de tanins, hein, il y a un peu plus d'affinage, de phase d'affinage, on va faire dessus. Mais franchement, ça marche bien.
Encore, on est encore une fois sur cette fraîcheur, cette pointe d'acidité, mais je trouve que le tanin est moins présent. En tout cas, moi, je le ressens un peu moins. C'est un peu plus rond, un peu plus.
C'est pas les mêmes tanins. Il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Alors. L'acidité était peut-être un peu moins dévoilée. Par contre, les amers sont construits différemment. Là, on est sur plutôt des amers de style café, torréfaction. Et c'est notre café lui donne quelque chose de, comment dire, des pseudo-fraîcheurs très intéressantes. Et vraiment, ça appelle à y revenir, entre guillemets, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... c'est riche, c'est puissant et je peux dire ça donne soif, mais on a envie d'y revenir tout simplement quoi. Je veux dire parce que c'est pas des tanins lourds, c'est très soyeux, très fin, très très élégant,
très léger.
Très léger malgré la puissance du vin. Hein, je veux dire on est sur un vin puissant avec des tanins ultra fins et les notes effectivement direction café lui donnent quelque chose de plus digeste, on va dire, que le côté plus chocolaté ou fruit. Et là, ouais, c'est vraiment une très très belle réussite ce vin. Quoi.
Et c'est 2011, hein, c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est une année aussi qui était plutôt assez bonne pour le vin, non ?
2011 était une année très mûre. On a connu 2009 qui était un peu dans le même acabit avec un peu moins d'acidité. 2010, à nouveau plus d'acidité. 2011, c'était vraiment l'année, je disais souvent des années après, je disais si je devais signer pour un millésime, ce serait 2011. En termes de qualité et en termes de quantité, bon après on a connu 2018, mais longtemps 2011 était un millésime référent par son équilibre, par vraiment ce qu'on a pu en sortir. Quoi.
Il y a 15 jours, on a goûté chez Christian Binaire justement le blanc de noir, le vin liquoreux. Moi je lui dis, j'ai jamais enregistré de liquoreux. Si, le tien était très bon. Et en fait, il m'avait paru très équilibré. Moi, je m'attendais à du sucre, tu sais, le truc bien lourd, pas du tout. Et en fait, j'ai l'impression que l'année 2011, on a un petit goût de reviens-y. Et ça, c'est plutôt agréable. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Moi, je trouve qu'il y a une salinité assez incroyable. Hein. J'ai quasiment déjà vidé mon premier verre.
Tu as commencé avant nous aussi.
Ouais, mais c'est vraiment un vin où tu as envie d'y revenir. Il y a un très très joli nez. C'est très fin, très très ciselé. Et après, en bouche, ouais, ça se laisse porter tout seul. Hein. C'est assez bluffant.
J'ai remarqué, Bertrand, il est un peu lièvre quand il boit du vin. Il part avant tout le monde. Hein?
Mais non, c'est Stéphane qui va servir avant tout le monde.
même quand il part après, il rattrape pas.
On était à Roufac, un verre vide, je te plains, verre plein, je te vide. Hein, mais...
voilà.
En tout cas, moi, je trouve ça très agréable.
Pour revenir justement à cette histoire-là, justement de se regarder dans les yeux de Stéphane et de son papa, oui, effectivement, ben, ouais, je pense important ouais, de souligner aussi ça. Il y a toujours, souvent, des exploitations où il y a un peu ce conflit générationnel. Et
au détriment d'un potentiel, quoi.
Oui, enfin, c'est là, oui, parfois il y a des gros potentiels. Il y a des jeunes qui veulent faire et qui n'ont pas toujours la mainmise dessus ou qui n'ont pas le droit. Et effectivement, à ce niveau-là, je veux dire, alors je remercie mon père ou le papa de Stéphane aussi, Jean-Charles, qui est effectivement personne très ouverte, très avenante et qui justement qui permet aussi de suivre son fils et de lui ouvrir la voie royale de l'avenir, on va dire tout ça simplement. Parce que t'es jeune, tu veux toujours un peu évoluer, faire des choses, t'as tes idées. peux te planter, c'est vrai aussi. Mais pour ça aussi, il faut te laisser faire. Et pour ça, je pense que Jean-Charles, il a compris et il est très fier de Stéphane. Parce que j'aime bien aussi Jean-Charles. Et je le souligne aussi. Voilà, ça fait... Non mais c'est vrai aussi. Je veux dire, tu serais pas là où tu es aujourd'hui, ni moi, si effectivement mon père ou ton père t'avait pas laissé faire. Et voilà, il faut aussi parfois les remercier parce que... Comme tout un chacun, il a besoin à un moment donné de s'émanciper, de montrer un peu aussi, voilà, j'aimerais faire. Alors, pas toujours facile non plus, parfois tu te plantes, parfois tu es recadré. Moi, quand j'ai commencé mes premières années, dans mes premières années de vinification, j'ai fait une macération de Riesling. Et l'œnologue à l'époque me disait, oh, mais t'es fou, c'est n'importe quoi, c'est pas bon, et voilà. Du coup, il m'a fallu, on va dire, 20 ans plus tard pour recommencer à faire les mêmes conneries, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est bon, et aujourd'hui, ça se vend, et aujourd'hui, ça fait plaisir. Alors qu'il y a 20 ans, je l'ai dilué pour arriver à le refourguer en vrac, et voilà. Donc, alors que c'était un très, très beau jus, quoi. Sauf que c'était pas compris. Et voilà. Donc, c'est important aussi, je veux dire... oui, précurseur, oui, peut-être, je sais pas, mais une chose est sûre, c'est que si effectivement tu n'as pas le droit, parce que bah, tu as les clivages familiaux qui te privent de t'épanouir, je veux dire, c'est compliqué. Et effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est un peu plus ouvert aujourd'hui, mais il y a quelques années encore, je parle de notre génération, de Stéphane et moi, parce qu'on est un peu moins jeunes, on va dire, mais c'est vrai qu'à l'époque, tu faisais comme ça parce que c'était comme ça. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de jeunes qui s'émancipent, des jeunes qui s'installent tout seuls, qui n'ont pas forcément de domaine familial.
De plus en plus.
Et c'est très bien, je veux dire, quelque part. Et donc, ils sont libres de joug familial, on va dire. Se permettent ou peuvent se permettre plus de liberté. Et voilà, quoi.
D'ailleurs, vous retrouverez l'épisode de Régis Bard, très bientôt, ou qui a déjà été... qui lui n'a pas du tout cette lignée là et j'ai rencontré le vigneron le plus jeune de la série, Théo Einhardt. Alors son père est encore sur le, à Rosenviller, hein. son père est encore sur Nicolas, ouais. Et je trouve que le petit Théo, je pense qu'il va faire, parce que en fait il a 21 ans, donc forcément parler d'émotion à 21 ans c'est très compliqué. Par contre, il a un truc dans les yeux, c'est ça, il arrive à le transformer en passion. Il a déjà la passion, mais il est habité, ce gamin est habité. Je pense que ça va être encore une des belles figures de ce vignoble-là. Et ça c'est très bien.
Régis va nous parler de ce schiste. Régis, c'est un grand amoureux de schiste.
Ah oui,
il en est très fier. Et il est ultra fier de ce schiste. Et il a raison. Voilà, effectivement, les schistes sont des très beaux terroirs. Alors oui, effectivement, on n'a pas toujours tous la chance d'avoir des vins sur des schistes. Alors ailleurs, on sait aussi faire du vin. Petit message pour Régis, mais ailleurs on sait aussi faire, quoi. Mais c'est vrai que.
Non, mais j'ai remarqué qu'au Schifferberg, là, il sort un petit peu.
Ouais, disons qu'il en est très fier, on va dire. Mais c'est vrai que, voilà. Je veux dire, quand tu as des beaux terroirs, c'est, je ne vais pas dire que c'est plus facile, mais ça te permet de faire des très très belles choses, très ciselées, très précises et très élégantes. Et c'est vrai, c'est pareil, un jeune qui démarre et. Il faut aussi le soutenir, comme tous les jeunes. Et voilà, c'est l'avenir de la viticulture alsacienne, et je pense que c'est important.
Je pense que cette aventure-là est magnifique. Il représente quoi ? J'ai l'impression qu'il est un peu particulier, ce vin, pour toi, non ?
À la cuvée Charles Accard, oui. Oui, il y a une histoire, un peu une histoire derrière. Mais finalement, c'est juste une évidence. Hein. Quand on est effectivement... en train de cultiver les vignes que son arrière-grand-père a plantées, et qu'on en parle aux clients. Alors, il y en a qui sont un peu moins sensibles, d'autres qui sont plus réceptifs, mais bon, le message venait de moi, finalement, je n'ai pas été clair là-dessus, mais les gens se disaient, mais mince, cultiver les vignes de son arrière-grand-père, c'est quelque chose d'énorme quand même. Et tout en étant toute l'année dedans, c'est vrai qu'on ne s'en rend plus compte. Et du coup, de cette cuvée-là, c'est juste issu de ces vieilles vignes que mon arrière-grand-père a plantées. Et du coup, de Charles à Karl. Donc Charles, c'est pas mon père, c'est mon arrière-grand-père. Karl, c'est mon fils.
C'est ton fils.
Ouais. Et il y a eu Charles. Il y a eu Edmond, mon grand-père, il y a Jean-Charles, mon père, moi, et Karl, mon fils, quoi.
En espérant qu'il va reprendre ou...
Oui, bah écoute, moi on m'a pas mis la pression pour reprendre le domaine familial et je pense que je vais faire pareil, c'est une vocation, on l'a pas.
Mais au fond de toi, t'aimerais bien.
Normal. Ouais, il est encore un peu jeune, je suis pas encore dans cette réflexion-là.
Je crois que t'as pas tout. De toute façon, t'as pas envie de laisser ta place pour le moment.
Non, on est encore des. Bah, moi, je suis de la même année que Christophe. Hein,
on est des jeunes.
Année 76, hein, on va pas se le cacher. Bonne année en plus. Hein, on est ici du meilleur millésime.
Mariage de mes parents, maman, papa.
76, c'est année de sécheresse. C'est pour ça qu'on a toujours soif.
Ah ouais, on est site. Mais c'est vrai que. Non, mais je sens une certaine émotion dans ce vin.
Oui.
Et qui me touche beaucoup, en fait, je dois dire. Déjà, qui m'avait touché. Et je me suis dit, quand je l'avais goûté la première fois, j'ai dit, celui-là, tes cuvées sont très bonnes, mais celui-là, je trouve qu'il a une émotion un peu particulière. Après, je ne vais pas rentrer dans les énergies, même si j'y crois un petit peu, et je crois que je ne suis pas le seul à croire. Et puis, peut-être que l'influence...
Ouais, voilà, moi, je n'ai rien à cacher. Quand on a mis en bouteille ce vin-là, donc, on étiquette les palettes... avec nos abréviations à nous, hein, on ne marque pas les noms des cuvées forcément sur la palette. Donc moi je l'ai appelé ROCC.
ROCC ?
ROCC, oui. Et sans dire à mon père ce que ça voulait dire. Et lui pensait à une cuvée Jean-Charles, Charles, parce que c'était l'année aussi, non, 2013, il est parti en retraite. Donc c'était l'année où on le mettait en vente et il pensait que c'était un peu une cuvée à son honneur. Ben, indirectement oui, puisqu'il fait partie de la génération, de ces générations. Mais voilà, pour un peu clore le truc et sans rentrer dans le trop émotionnel, mon grand-père est décédé en janvier 2014. Donc entre le moment où on a fait ce vin-là, il était en bouteille et on allait commencer à le vendre. Et donc ses palettes étaient dans la cave, estampillées ROCC. Et le jour de l'enterrement de mon grand-père, j'ai dit à mon père ce que ça voulait dire. Donc j'ai dit c'était cuvée Charles à Karl. Et donc le cimetière est à 100 mètres de la cave. Hein, et tout le monde est parti du cimetière. Et moi je suis remonté en courant dans le cimetière avec une bouteille de vin, le même que celui-là, qu'on vient de goûter. Et je l'ai mis dans la tombe de mon grand-père. Donc avant qu'il scelle, il y avait les pompes funèbres, voilà. Donc pour dire, il a fait partie aussi du truc, quoi.
Ah bah, alors je vous propose, on lève nos verres au grand-père.
Et il a dû se régaler, le papy. Hein.
Allez, au grand-père, parce que ces histoires de famille sont toujours intéressantes.
Il est en train d'appeler, il veut une autre bouteille.
Bah oui, parce que là-haut, il y en a quelques-uns, hein, s'il a rencontré les bonnes personnes. Mais c'est vrai que, voilà, c'est ces histoires que font l'Alsace, c'est cette fierté aussi qu'on a. Bah, on est très attaché aux liens aux familiaux.
Je pense que c'est important.
Je pense savoir d'où on vient et qui on est, c'est très important. Et je crois que c'est ça qu'on doit... Moi, je dis toujours, il faudrait emmener les Alsaciens en immersion dans leur propre région. Mais je crois que c'est quelque chose qui va... j'ai un truc qui travaille de plus en plus dans mon cerveau. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que les gens se bougent et qu'on en soit fiers. En tout cas, alors avant de parler de la cuvée Stéphane, qui est la dernière cuvée, t'as un mot pour ton copain là ? Un truc que tu lui as jamais dit ? Ouais, je te prends un peu
de temps. Non, mais là, je suis dans la réflexion. Là, je suis encore sur cette histoire de Karl là où. Effectivement, Stéphane, il dit, il se laisse du temps, il sait pas trop. Et effectivement, ouais, c'est un peu, ça me travaille un peu là depuis.
J'ai remarqué.
Et en fait, oui, effectivement, c'est jamais évident parce que le vin, c'est pas juste un produit lambda, c'est une histoire, c'est générationnel, c'est voilà. Et à un moment donné, oui, effectivement, t'as ce sujet qui vient ou qui revient. C'est pas qu'il est pas pressé que le gamin y reprenne ou pas. Et oui, effectivement, il y a encore le temps, on veut encore bosser un peu. Mais en même temps aussi, c'est la pérennité de tout le travail que nous, on a continué, même pas fait, mais continué par rapport aux anciennes générations et tout ce qui a été fait avant. Et donc là, effectivement, on parle de 5 générations de vignerons. Enfin, 4 avérés, le 5e en devenir ou avec bon espoir. Mais je pense que intrinsèquement c'est très important d'assurer une pérennité à tout le travail qui a été fourni avant, parce que sinon quel est le but de continuer, quoi. Et donc oui, c'est un sujet un peu, parce que bon, moi j'ai 4 gamins pour l'instant, j'ai pas de lisibilité non plus, et ouais, c'est un peu un sujet qui me travaille aussi, ouais, de
la presse, elle te travaille?
Pardon?
La presse, elle te travaille?
La presse.
L'après.
Ah oui, l'après me travaille, oui. On verra. Je veux dire, bah, le problème, c'est que toute l'énergie et tout ça, ça me ferait mal de juste vendre, ou je sais pas, ou même ça vaut plus rien, enfin on s'en fout, quoi. Mais s'il n'y a pas de suite, ouais, ça me ferait mal, quoi.
Je trouve ce sujet très intéressant, parce qu'il était pas, enfin, c'était pas du tout prévu.
Quand maintenant on a 20 ans de carrière tous les deux, un peu plus, hein. Quand j'ai commencé à acheter des vignes, allez, on en arrache une vieille, on replante. Et moi, je me suis très vite dit, alors c'est bête, mais c'est comme ça, et ça résume tout. Quand je plantais une vigne, je me disais, encore une que je n'arracherai pas.
J'aime bien.
En fait, moi, je travaille avec pas que des vignerons alsaciens, mais un peu de partout en France. Et je me rends compte qu'il y a une génération avec les vignerons avec qui je travaille, que je connais depuis 15-20 ans, donc largement avant de faire ce métier, qui sont en train de passer la main, et qui, t'as les enfants qui sont en train de reprendre, que ça soit la fille pour Claude Santeil par exemple, que ça soit le fils chez Sol Perret, etc. Et en fait, tu vois qu'il y a, quand tu discutes avec ces gens-là, qu'il y a une fierté, mais vraiment une fierté, de transmettre le savoir-faire et le patrimoine que ça représente d'avoir un vignoble. Pour moi, franchement, il n'y a pas grand-chose de plus beau que la terre, que le travail que font les paysans que sont les vignerons. Aujourd'hui, on est sur des valeurs, et c'est pour ça peut-être que je m'y retrouve aussi, parce que voilà, je partage un peu ces valeurs, même si je ne suis pas issu de ce milieu-là. Mais tu vois que quand j'entends Pascal ou Jean-Claude Solpaire parler de Bertrand, et quand tu parles avec Bertrand et que tu vois qu'ils sont super fiers de ce qu'ils ont en main. Et c'est aussi 5e, 6e génération de vignerons. Mais je ne sais pas pourquoi, et ça s'est trouvé comme ça, mais à part deux exemples sur la quinzaine de vignerons avec qui je travaille, c'est tous des passages en ce moment de génération. Et il y a vraiment une fierté de transmettre son savoir, le flambeau. Et tu vois que les jeunes qui prennent la relève ont vraiment, vraiment, vraiment envie de continuer. Et on rejoint un petit peu ce que disait avant avec Stéphane, qui avait ses idées, qui voulait faire de la grappe entière, etc. Et tu vois que ces jeunes vignerons ont envie d'apporter aussi leur nouveau savoir-faire et de continuer à faire évoluer le domaine. Et donc, c'est super intéressant. Et on n'est que dans l'humain, que dans l'émotion, mais c'est juste beau, quoi. Voilà.
C'est magnifique.
Il y a juste un truc, ce que chacun veut ramener finalement. Hein, chacun ramène la pierre à son édifice de génération en génération. Il n'y a toujours qu'un seul unique but. C'est de sublimer un potentiel. C'est de sublimer ce qu'on peut. On n'est pas assez fier de ce qu'on pourrait faire. Et en essayant certaines choses, bah les macérations entières par exemple, on arrive à des autres produits où on se dit, mais mince, c'était déjà là. Pourquoi je ne l'ai pas pris avant? C'est un peu ça l'esprit.
Il ne faut pas oublier que les vignerons sont des gens humbles. Tu peux être que humble par rapport à ton métier, parce que rien n'est écrit. Et on voit que 2003, tu as une année, voilà, comme disait Stéphane avant, tu as 80 jours entre le début et la floraison et la récolte. Et 2004, c'est complètement différent. Donc à chaque fois, si tu n'as pas d'humilité et que tu ne t'adaptes pas, tu ne réussis pas à faire des beaux vins.
T'as cette dualité, alors, ouais. Pour te répondre, oui, ben, t'as une dualité entre le côté humilité d'un côté et résilience, adaptation, et effectivement, ben, dans des cas comme ça, 80 jours, 120 jours, et oui, ben, ça fait partie du métier, ça fait, y a plein de choses où tu as besoin d'humilité, mais en même temps, tu as l'autre facette où effectivement, quand tu arrives à... comme là, ce qu'on vient de goûter, là, à sortir des cuvées comme ça, peut-être t'as aussi de quoi être fier. Et voilà, alors bien sûr, il y a l'ego, il a la taille qu'il a, mais à un moment donné, la fierté, oui, mais il n'y a pas de honte à être fier non plus du travail accompli. Et je pense que, oui, bah, des cuvées comme vient de goûter, bah, ouais, bah, c'est très intéressant. Et c'est aussi suite à un cheminement. Et comme je dis, c'est une histoire, c'est très lourd. En fait, on parle du passé, de de l'intergénérationnel, de plein de choses. Et ce poids, entre guillemets, cette difficulté parfois à pouvoir vouloir s'imposer, à réussir parce qu'il y a un père qui est là, qui t'aide et voilà, que tu as envie de transmettre et de pérenniser.
Je trouve cette discussion sur l'affiliation très intéressante. Elle n'était pas prévue du tout. Mais après,
juste pour ajouter, tu es humble quand tu es sur le terrain, quand tu es dans la vigne, mais tu ne peux être que fier quand tu es résultat. Tu es content du résultat. Et tu titillais notre cher ami Christophe. Mais
je le titille toujours.
Je le comprends. Enfin, quand tu fais des choses comme Christophe fait ou comme Stéphane font,
bien sûr, heureusement. Mais justement, avant de finir cet épisode, si tu devais définir ton domaine en trois mots, ce serait quoi?
Oh là, là tu me prends un peu de cours.
C'est un mot déjà.
Hop là.
Hop là,
Tringains.
Hop là, Tringains. Bon, allez, venez buvez un coup.
Ouais, c'est compliqué. Ouais, trois mots, terroir, homme.
Il en a dit un qui te va bien, je trouve.
Humilité.
Humilité, ouais, peut-être, ouais.
Passion.
Aussi, ouais.
Des schlimm.
Mais je pense qu'il y a plus que trois mots. Le trois mots, c'est toujours un peu juste ou
limitant,
ouais. On va dire, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je veux dire, rien que l'environnement, je veux dire... On peut parler de l'environnement, tu prends Odile, tu prends Autrotte.
On va parler d'Odile après.
Odile est un mot fort, Autrotte est un mot fort, Stéphane, enfin Vonville, la famille Vonville qui... Alors bien sûr, il n'est pas seul à Autrotte, mais je veux dire, il est ancré maintenant depuis 400 ans et voilà. Donc ça c'est important aussi, il fait partie du patrimoine, du décor, de l'environnement, de enfin voilà.
L'écosystème.
Donc,
l'écosystème.
L'écosystème.
Le biotope.
Mais c'est vrai. Je veux dire, après, tout dépend où tu focalises tes trois mots. Je veux dire, effectivement, après, tu peux le mettre dans les caractéristiques.
C'est simple. Indépendamment du monde de Vignon, je crois que tout être à l'heure actuelle, avec tout le savoir, toutes les infos qu'on a, je disais écosystème bêtement, mais vraiment, c'est ça. Qu'est-ce qu'on amène? Tous, nous, vignerons ou pas, hein. Qu'est-ce qu'on amène? Moi, j'ai plus l'impression que l'homme, à l'heure actuelle, il enlève plus qu'il amène.
Ouais, bah, comme moi, je vois ce que j'enlève chez toi et je viens chercher mon boire.
Et là, justement, avant l'amour, tu prends quel vin?
Une cuvée Stéphane.
Après l'amour?
Une bière.
Ton dernier grand coup de cœur, vin, pas forcément alsacien, hein, ça peut être, mais ton dernier vin que t'as bu et tu t'es dit waouh.
Bof, qu'est-ce qu'on a ouvert hier
Parce qu'il était dans le coup.
Non, il était pas avec Christophe, non. On a ouvert un Alox Corton, voilà.
Intéressant. Excellent. Toi, ton dernier coup de cœur vinicole.
Coup de cœur vinicole. Attends, laisse-moi réfléchir maintenant. J'ai bu une cuvée de Jolin Plaisantin qui s'appelle Les Hauts et les Bas. Les Hauts et les Bas de Jolin Plaisantin 2017.
Parfait. Bertrand.
Moi, très simple, un vin de mes vignerons. Hein. J'en ai plusieurs, mais j'adore Palabre de chez Emmanuel Ager en Loire. Biodynamie. C'est un 100% Pinot de Nice qui est juste parfait.
Et attends, moi je te retourne la question, toi aussi. Hein, dis.
Moi, mon dernier coup de cœur, ouais. Alors je vais vous dire un truc. Non, mon dernier coup de cœur, le coup de cœur que j'ai fait, alors c'est un peu tronqué parce que c'était dans un épisode, mais j'ai vraiment envie de le souligner. J'ai goûté la Solera Käferkopf de chez Christian Binaire qui n'est pas encore sorti. Qui va sortir, il veut la sortir. C'est un très grand vin et je voulais mettre un petit coup de chapeau à Madame Michel, mais qui travaille en ce moment sur des huiles de pépins de raisin. Chaque terroir, elle en a fait une huile de pépins de raisin. Que ça soit le Käferkopf, le Hengst, c'est une grande, c'est très très grand et je voulais les saluer. Après, je tiens aussi à, il n'est pas encore sorti, mais le petit Théo Einhardt. On est à Rosenwiller, on est sur un Gewürztraminer qui va sortir. Et même son pinot gris, un peu macération, c'est plutôt pas mal. Ça va raconter de bonnes choses. En tout cas, moi, j'étais content de vous avoir. Je trouvais que cet épisode est parti sur l'affiliation. Je trouvais ça très intéressant de voir un petit peu l'amour du fils envers leur père. Je trouve ça toujours touchant, et c'est aussi ça, c'est aussi là qu'on reconnaît l'Alsacien. On est très famille. Juste avant de partir, on peut pas finir l'épisode sans parler d'elle. Elle. Tu peux nous là-haut. Tu connais l'histoire ou pas?
Bah, Odile est née aveugle, hein, ça tout le monde le sait, était donc reniée par son propre père, qui voulait la faire disparaître, hein, on va dire ça comme ça, qui a été donc mandatée par une des nourrices de la faire disparaître, et qui finalement l'a gardée, pas sur le mont, hein, mais ailleurs. Il a élevé, et Odile est revenue, je ne sais plus à quel âge, par contre.
12 ans.
À 12 ans, ouais, j'allais dire 9. 12 ans, est revenue au Saint-Odile, son père la croyant morte.
Sachant que c'était un château, c'était pas encore une...
Un château, c'était pas encore un couvent, oui. Et donc elle s'est fait baptiser, et au baptême, elle a retrouvé la vue. Et donc son père, voyant là un miracle, a décidé de lui confier son château finalement, et Odile en a fait un couvent.
C'est la première abbesse d'Alsace.
Première abbesse d'Alsace, oui. Et alors nous, on est Odile. Hein. Odile, elle est juste là à côté. Hein. On voit la statue vraiment sur le côté, ouais. Côté gauche. Alors on dit souvent chez nous, hein, enfin même les autres le disent, que au trot, on est un peu béni d'Odile, parce que c'est elle qui ouvre les nuages avec sa main dressée. Et qui
et tu sais qu'il y a un manga japonais qui s'est basé sur Saint-Odile pour dessiner...
À quoi? Un ange?
Manga japonais, si. Chevalier du Zodiac, ah bon, la deuxième saison, Asgard, c'est basé sur Saint-Odile.
Oh bah dis donc.
Tu verras que le dieu Odin a été un peu dessiné, un peu sur la même façon de faire.
Oh bah tu m'en apprends une bonne.
Et c'est comme Miyazaki qui a dessiné le château dans le ciel, et il y a des images de Colmar dedans.
D'accord, ok. Ouais, Mais tu vois, pour revenir sur la cuvée Charles à Carl, donc Charles que j'ai pas connu, hein. Décédé en 71, moi je suis né en 76, mais a participé ils ont caché le sarcophage de Saint-Odile pendant la deuxième guerre, et donc lui il était un des, sur les 3-4 personnes présentes, était un des seuls à savoir jusqu'après-guerre où le sarcophage était caché.
Alors c'est vrai que si vous faites du tourisme dans le coin, vous pouvez partir, vous passez chez Stéphane goûter ses vins, et puis après vous allez faire le sentier des pèlerins sur le mur païen. Alors c'est très énergique, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de légendes. J'espère que Gérard Lézer sera bientôt disponible pour faire justement cette petite balade à travers les légendes d'Alsace. Tu voulais dire quelque chose?
Non, je parlais juste par rapport à Odile justement. Il y a une anecdote intéressante ou importante qui nous unit un peu plus au-delà, je ne sais même pas si j'en ai déjà parlé avec Stéphane ou pas. Datel était la mère d'Odile et chez nous dans le village dans les Sem, donc on a le Dodelbrunn, donc le puits de Datel, c'est une petite source où effectivement coule on appelle ça le puits d'amour en français, en alsacien de Dodelbrunn, et soi-disant cette eau aurait des vertus pour soigner les aveugles ou les problèmes de vue. Donc quelque part on n'est pas si loin que ça, il y a à peu près 10 bornes, 15 bornes, 10 bornes, même pas, et donc le fait d'avoir cette petite anecdote est rigolo, et donc ouais, le Dodelbrunn c'est le puits d'amour, c'est donc un joli petit lieu qu'on a refait, avec des murs en pierre sèche et tout ça, enfin un joli site à Dorlisheim, et voilà quoi, pour la petite histoire, donc il y a quand même un joli lien entre Dorlisheim et Odile quoi, qui est pas loin.
Alors sur ces belles paroles, on va quitter au trot petit à petit.
Prochain pique-nique sera au Dodelbrunn.
On va quitter au trot puisque la prochaine fois nous serons, on a parlé tout à l'heure du rouge au trot, on sera justement à Liechtenstein sur la terre du domaine Gupp. Encore une belle histoire à raconter, un peu mélancolique aussi, et raconter. Et puis après on ira chez Spiral, on va parler digestif. En tout cas, comme je dis toujours, buvons modérément, buvons libre, buvons Alsace. Skilt.
Skilt.
À bientôt. Ciao, ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.